There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, salut à tous, un épisode surprise du rendez-vous jeu, j'avais pas prévu d'en faire un, mais d'une part, je voulais dire aux auditeurs, à tous les auditeurs, que vous pouvez aller voter pour le jeu de l'année du rendez-vous jeu. Le vote est ouvert, et comme j'avais mal calculé les choses, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas d'occasion de vous le dire dans le podcast avant qu'on parle des jeux de l'année, la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Donc voilà, déjà... un truc important, c'est vous dire ça. Je voulais le faire, mais ça m'a donné l'occasion de le faire parce qu'il y a eu les Game Awards hier, dans la nuit, il y a quelques heures à peine. Et il s'est passé pas mal de choses finalement, et des choses qui seraient intéressantes de discuter et qui prendraient, je pense, trop de temps à expliquer et à débattre dans l'épisode de fin d'année de jeu de l'année. Donc je me suis dit, parfait, un petit épisode bonus que je vais vous faire comme ça, en solo, en tête-à-tête, dans la journée, et ça va nous permettre d'avoir le champ libre pour les jeux de l'année la semaine prochaine. Donc, je voudrais surtout vous parler, donc n'oubliez pas, effectivement, le lien sera dans les notes de l'émission pour voter pour les jeux de l'année. Et c'est un truc qui prend vraiment 2 minutes. Si vous voulez voter que pour votre jeu de l'année, c'est possible, il n'y a qu'une question obligatoire. Donc, le lien sera dans les notes de l'émission. Et pour les Game Awards, je voulais aussi vous en parler un petit peu parce que finalement, ça a été relativement intéressant. Ce n'est pas une énorme Game Awardserie, mais on a eu quelques détails sur la prochaine génération de Xbox et quelques jeux en plus de ça. Donc voilà, un petit épisode, un mini-épisode pour parler de tout ça. Bien sûr, j'aimerais vous rappeler aussi que cet épisode est rendu possible et cette émission est rendue possible par les Patriotes, les gens qui soutiennent l'émission. Donc n'hésitez pas à venir sur patreon.com/rdvjeux si vous appréciez l'émission. Et si vous aimeriez avoir plus d'épisodes, il y a des paliers pour avoir plus d'épisodes de l'émission. J'aimerais à terme, au bout d'un moment, qu'on arrive à un rythme hebdomadaire pour l'émission. Donc si vous écoutez depuis un moment, si vous aimez bien, n'hésitez pas, patreon.com/rdvjeux. Là aussi, le lien est dans les notes de l'émission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Game Awards? On a eu, bien sûr, plein d'annonces de jeux, des moments un petit peu malaisants quand même, évidemment, ça ne serait pas les Game Awards sans. Je dirais que, dans l'ensemble, la conférence ou la présentation était un petit peu plus... Il était un peu plus difficile de déterminer qu'est-ce qui était une pub et qu'est-ce qui était un trailer. Certains vous diraient que tous les trailers sont des pubs et ils n'ont pas forcément tort. Donc, en fait, c'est que des pubs dans les Game Awards, c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai trouvé que par rapport aux années précédentes, c'était vraiment un petit peu plus mêlé. Ce qui, comme on le disait dans l'épisode précédent, moi, me dérange pas forcément. Il y a à la fois ça et à la fois le plaisir de célébrer les jeux et l'industrie et cette année qui vient de s'écouler. Donc, même l'aspect marketing qu'on connaît ne me dérange pas vraiment. Surtout qu'il y a eu des choses, effectivement, comme je le disais, un petit peu intéressantes. Et notamment, venons-en au point principal, la Xbox Series X, qui est donc le nom de la famille, je pense, de nouvelle génération de consoles Xbox qui arrivera l'année prochaine. Alors, on ne sait pas exactement si ça inclut les deux machines dont on a eu les rumeurs, dont on discutait la dernière fois avec la version un petit peu moins puissante. Là, c'est la version plus puissante, qui est assez... En fait, ça ressemble vraiment à un PC, quoi. C'est assez volumineux. Ça peut être debout ou couché, mais c'est carrément une tour de PC, une mini-mini tour de PC, mais une tour de PC quand même. Et c'est donc un truc qui est assumément une grosse bestiole. Les autres détails qu'on a pu avoir, c'est le fait qu'il y a un bouton de partage qui est ajouté à la manette. Ça, c'est intéressant parce que, bien sûr, c'était déjà le cas sur la PlayStation 4. Je pensais que c'était pas quelque chose qui était hyper utilisé, et c'est vrai que c'est pas forcément le cas, mais j'en parlais dans l'émission en anglais Pixels ce matin avec Daniel Ahmad, et il disait une chose intéressante, c'est que le bouton de partage sert évidemment pour partager des screenshots et des vidéos et commencer à streamer par exemple, mais il sert aussi pour partager les jeux, en ce sens que vous pouvez envoyer un lien, on peut l'imaginer plus tard, et n'importe qui peut vous rejoindre dans votre jeu. C'est vraiment plus que simplement, enfin ça pourrait être plus que simplement partager des médias, mais partager le jeu. Et le fait que le bouton soit inclus sur la manette est un aspect intéressant. Alors, les anciennes manettes seront compatibles aussi, donc ça voudra dire qu'on pourra y aller sans doute faire ça par un menu, mais là, le fait que le bouton soit accessible facilement, ça peut indiquer une petite partie de la stratégie, d'autant plus que, avec les avancées technologiques matérielles, on va pouvoir lancer les jeux facilement et rapidement. Il y aura le xCloud qui nous permettra d'accéder à des jeux très facilement aussi. Donc, on peut vraiment mettre un truc en pause, lancer un autre truc, revenir à notre premier, etc., ou rejoindre quelqu'un qui est dans une partie. C'est un aspect auquel je n'avais pas pensé, mais c'est vrai que cet aspect partage de jeux, plus que de médias ou de streaming, pourrait devenir un aspect important. D'autant plus que Phil Spencer a dit dans des interviews que, enfin c'est l'interview avec GameSpot je crois, qu'il y aura le gel de l'état des jeux, donc on pourra mettre pause quand on quitte un jeu, sur plusieurs jeux en même temps, pas seulement sur un seul. Ce qui veut dire que du coup, effectivement, c'est beaucoup plus simple d'aller rejoindre quelqu'un, on est en pleine partie, on fait pause sur le jeu, ça, on peut y revenir exactement là où on était, et on va rejoindre quelqu'un sur une partie d'autre chose, et puis on revient quand on a fini de jouer. Ça va fluidifier beaucoup ce type d'interaction, je pense. Et c'est un aspect qui pourrait être plus important que sur les générations précédentes. Et puis, il y a un autre aspect qui est intéressant avec cette Series X, c'est le fait qu'il y a 4 générations de rétrocompatibilité. Donc, les jeux, en tout cas les jeux Microsoft, seront tous utilisables depuis la première Xbox jusqu'à la console, la Series X. D'ailleurs, le nom, je ne vais pas réussir à m'y faire. Hein. C'est super bizarre. Je crois que c'est d'ailleurs Johan qui nous disait, qui disait sur Twitter, c'est une Xbox Sex, effectivement, S-E-X, Series X, pourquoi pas. Mais comment l'appeler ? Est-ce qu'il y aura le nom du modèle, ou est-ce que le nom du modèle, ça sera Series X, ou est-ce que ça sera... Enfin, c'est un petit peu bizarre comme convention de nom, mais bon, bref. Les 4 générations de rétrocompatibilité ou de compatibilité, c'est un aspect aussi qui est intéressant. Il semblerait qu'au moins pour les jeux first party, les jeux Microsoft, tous les jeux soient compatibles sans souci, c'est-à-dire que si vous l'avez acheté sur le store en ligne, vous pourrez le retélécharger, même un jeu de la première Xbox, rendez-vous compte. Je ne sais pas s'il y avait des stores en ligne pour la première Xbox à l'époque, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous avez le disque, eh ben vous pouvez le mettre dans votre console et ça marche tout seul, sans doute avec des émulateurs pour les plus vieilles, etc. Mais donc, ça sera vraiment, il y a cette idée de, entre tout ça, le fait que toutes les sauvegardes soient transportables dans le cloud, tout le fait qu'on ait du cloud gaming, le fait que les jeux soient disponibles sur plusieurs plateformes avec cette console plus ou moins puissante et la disponibilité sur PC pour beaucoup d'entre eux, on arrive à un truc qui est, à mon sens, c'est une sorte de jeu ambiant, l'univers du jeu ambiant, le ambient gaming, comme on appelle le ambient computing pour ceux qui suivent l'industrie tech, et du côté de Microsoft en tout cas, et peut-être d'autres aussi, c'est pas, on casse vraiment complètement cette idée qu'on associe un jeu à une console et même à une question de modèle de console ou de génération. C'est vraiment le jeu est partout autour de nous, sur tous les devices, sur tous les services, y compris, enfin, il n'y a plus de physicalité à notre relation au jeu, ou petit à petit, il va y en avoir moins. C'est vraiment dans cette direction que semble se diriger Microsoft, et c'est une approche qui est hyper intéressante. Donc, bon, à voir comment ça va suivre. Ce qui est sûr, que le résultat est impressionnant quand on voit le premier jeu qui a été présenté, puisque évidemment, l'autre gros morceau, c'est qu'ils ont présenté Hellblade 2 de Team 17, Senua's Saga, qui fait suite à Senua's Sacrifice. C'était un triple I, c'est-à-dire un jeu développé par un studio indépendant, mais avec des graphismes d'une qualité incroyable, et ben là, il ne manque pas à cette, ce qui est désormais une tradition. Les graphismes de Senua's Saga sont assez impressionnant, et surtout le trailer, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller le regarder. Il y a les chants tribaux qu'elle chante qui sont exaltants et glaçants à la fois, et puis l'ambiance qui est créée par toute l'ambiance du trailer, quoi, les créatures qu'ils rencontrent, les couleurs, l'aspect sombre du truc, c'est vraiment un truc qu'il faisait très très bien avec Hellblade 1 déjà, cette ambiance. Et là, c'est le même type de talent, mais avec une ambiance plus guerrière. J'imagine que le jeu sera beaucoup plus traditionnel que Hellblade 1, mais qui reprend l'univers. C'est vraiment quelque chose qui est un bon showcase pour la prochaine génération. Et rien qu'au niveau graphique, effectivement, c'était impressionnant.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Donc ça, c'était du côté de Microsoft. On a aussi du côté de Sony, on a eu quelques trucs un petit peu inattendus, comme l'annonce de Godfall, qui est un jeu développé... Comment il s'appelle? Team 24, c'est pas Team 17, mais quelque chose 24, je crois, ou c'est peut-être pas eux, mais en tout cas, c'est publié par Gearbox, pas développé par Gearbox, et c'est décrit comme un looter slasher, et ça va arriver sur PlayStation 5, donc sans doute exclusivité ou exclusivité temporaire pour les consoles. Il va aussi être disponible sur l'Epic Game Store, donc aussi sur PC, mais oui, cet aspect qui... contribue à l'ambient gaming, c'est aussi le fait qu'il y a du cross-save de plus en plus un petit peu partout, et même du cross-play. On espère que ça va se généraliser dans la prochaine génération, ça a l'air d'être le cas. Mais oui, donc ce jeu-là, on en voyait beaucoup moins. C'était un petit teaser. Il y avait effectivement des graphismes qui étaient relativement impressionnants, mais c'était moins convaincant, je dirais, que Senua's Saga. Mais bon, c'est le premier jeu annoncé pour PlayStation 5, donc c'est quand même quelque chose d'important. C'est un looter-slasher qu'on peut jouer à seul ou encore ou à plusieurs, donc un truc intéressant parce que ça arrive sur PlayStation 5. Pardon, je suis désolé, comme vous le savez peut-être, je suis seul avec le petit toute la semaine, ma femme était à Paris, elle revient aujourd'hui, donc j'ai passé une semaine compliquée. Mais bon, donc l'autre aspect intéressant de ces Game Awards pour la PlayStation, c'était le long trailer pour Ghost of Tsushima, qui a une date de sortie en 2020. Et comme c'est un jeu que j'attends, il est d'une part super super beau, ambiance là encore vraiment réussie. On n'en sait pas beaucoup beaucoup plus sur le gameplay, donc ça peut être un point que sur lequel certains sont dubitatifs. Mais en tout cas, au niveau ambiance, le setting, le Japon féodal, c'est évidemment quelque chose qui me plaît. Je suis très, très impatient. Et donc, intéressant, ils sortent Ghost of Tsushima à l'été 2020, ce qui veut dire avant la prochaine génération. Bien sûr, ils ont annoncé que la PlayStation 5 serait compatible avec les jeux PlayStation 4. Donc, on pourra certainement jouer aux jeux PlayStation 4, peut-être même un petit peu amélioré sur PlayStation 5, et ça sera le cas pour Ghost of Tsushima à l'été 2020, mais aussi The Last of Us 2 qui sort au printemps. Mais je pense que le fait de le sortir à l'été veut aussi dire qu'ils vont peut-être nous faire une version améliorée spécifiquement pour la PlayStation 5, et qu'ils pourront nous le vendre deux fois peut-être, celui-là et... de Last of Us Part 2 dans un an ou deux, je sais pas. On verra, ou peut-être qu'ils mettront l'upgrade pour tout le monde, ça serait un précédent intéressant, mais je sais pas. On va voir, en tout cas, Ghost of Tsushima lui-même sort à l'été 2020, et il est très très beau, comme le sont la plupart des derniers jeux sortis ces derniers temps. On atteint les niveaux limites de cette génération avant le passage à la prochaine. Un autre aspect intéressant des Game Awards, c'est qu'ils avaient une sorte de série de démos, une promotion, une série de démos de jeux annoncés pendant l'événement qui sont disponibles à télécharger sur Steam. Et ça, c'est un petit peu le sens de l'histoire. C'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire l'idée d'avoir des événements de présentation de jeux avec non seulement des sessions de démos sur place, mais aussi des démos à télécharger. Et peut-être, pourquoi pas, c'est ça qui me paraît le plus intéressant, pourquoi pas des jeux à streamer, pour même pas avoir besoin de les installer, qui soient vraiment faciles à accéder, peut-être déjà dès l'E3 ou ce genre de choses. Je pense qu'il faudra limiter l'accès, parce que si tous les joueurs du monde se mettent à jouer au dernier jeu qui a l'air cool, je pense que les serveurs de streaming vont exploser, ou peut-être qu'ils pourraient faire un système de queue, ou je ne sais pas, un truc du genre. Mais peut-être qu'il y aura un genre, c'est un moyen pour un salon comme l'E3 de ramener de l'argent, parce que s'ils font un truc comme le Virtual Ticket de la BlizzCon, par exemple, qui pourrait d'ailleurs intégrer ce genre de technologie aussi, mais le Virtual Ticket, une sorte de Virtual Ticket pour l'E3, où on peut essayer les petites démos qui sont sur le stand de toute façon des jeux qui sont présentés, je pense qu'il y a plein de gens, moi y compris, qui seraient prêts à payer 20, 30, 50, peut-être même plus euros pour y avoir accès. Avoir accès à tous ces jeux, c'est quelque chose de vraiment une offre intéressante. Et puis si c'est en streaming, c'est tellement facile, on n'a même pas besoin de les installer, il n'y a pas besoin de se soucier de la sécurité du truc ou de faire un build qui fonctionne sur tous les PC du monde. C'est beaucoup, beaucoup plus simple à gérer en streaming. Je pense que ça pourrait arriver, à voir. Mais en tout cas, là, c'est déjà disponible avec des démos à télécharger sur Steam pour certains jeux. Je vous fais le spoiler, c'est pas forcément des jeux hyper intéressants dans l'ensemble, mais bon, voilà, à noter, ça pourrait rendre encore moins intéressant le fait d'aller à ces salons. Les journalistes seront peut-être un peu plus frustrés si ça se généralise comme tendance. Mais bon, venons aux jeux eux-mêmes qui ont été annoncés. Il y avait No More Heroes 3 qui a été confirmé pour 2020. Ça, c'est une série que je ne connais pas très bien, donc pas de grande relation avec. Final Fantasy VII Remake, un nouveau trailer qui était là encore... je crois que ça montrait à quel point il a été changé par rapport à l'original, encore une fois, au niveau même dialogue, narration, etc. Et évidemment, c'est pas un mal, parce que le set datait un petit peu, pas que dans sa conception technique, mais aussi dans la narration, je pense, par certains aspects. Mais ça m'a donné encore envie de le tester. Je vais pas passer tous les jeux en revue, il y en avait vraiment, vraiment beaucoup, mais Bravely Default 2, qui arrive sur Switch en 2020, ça va faire plaisir à certains. La mise à jour Empyrean de Warframe, qui est disponible sur PC depuis l'annonce au Game Awards, là, donc c'était une sortie surprise, on s'imaginait qu'elle arrivait bientôt, mais elle est disponible sur PC maintenant, sur les autres plateformes plus tard. Ça va, je pense que Benoît Exerve a sauté du lit pour aller y jouer immédiatement. C'est un truc qu'il attendait énormément. Je lui redonnerai peut-être sa chance quand il sera sur PlayStation 4, parce qu'il y a plein de gens qui en disent du bien, dont Benoît. Mais surtout, cette mise à jour avait l'air vraiment intéressante, et il semblerait que ça soit relativement facile à appréhender pour les nouveaux joueurs, qu'il y ait une nouvelle expérience de présentation du jeu, pas un tutoriel tout à fait, mais enfin bon, je regarderai peut-être si j'ai le temps dans tous les jeux que je dois faire. Prologue, dont on n'a pas vu grand-chose, mais c'est le nouveau jeu de Brendan Green, PlayerUnknown, et même si on n'a pas vu grand-chose, et ben forcément, si c'est PlayerUnknown, on y prête attention, parce que PUBG a quand même un petit peu de cred, de street cred à son actif. Fortnite, il va y avoir cette promotion avec Star Wars qui est intéressante, mais surtout, ils ont dit qu'au-delà du... je ne sais pas si vous êtes au courant, mais samedi soir, il va y avoir donc un moment donné, dans Fortnite, dans un endroit de la carte, ils vont passer un petit trailer, un extrait de trailer de Star Wars. Bon, ça, ok. Mais surtout, ils vont avoir visiblement un événement au-delà de ça. Et ça, je n'étais pas au courant. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais il va y avoir donc J.J. Abrams, le réalisateur, qui va être présent dans le jeu. Il va y avoir des trucs qui vont se passer. Donc là encore, je continue à être émerveillé par la manière dont Epic gère le succès et le phénomène de société de Fortnite. Il y a deux jeux faits en partenariat avec Riot dans l'univers de League of Legends. Ils avaient annoncé qu'ils allaient travailler avec des développeurs tiers. Il y a Rune King, d'une part, qui est un jeu solo, et Convergence, écrit de manière bizarre, qui est un jeu de plateforme, visiblement, action plateforme. Alors, le jeu solo, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais bon, les deux sont sans doute des jeux qu'on peut jouer en solo. Mais donc, Rune King et Convergence, l'extension de l'univers de League of Legends, c'est une manière intéressante de faire la chose. Il y a un truc qui va faire plaisir aux fans de la première heure, c'est Baldur's Gate Dark Alliance qui est rebooté. C'est un jeu donjon et dragon qui s'appelle Dark Alliance, qui est un jeu en co-op à 4 joueurs qui sort à l'automne 2020. C'est vraiment du donjon et dragon pur jus, quoi. Il y a le nain, l'elfe, l'archère. Le trailer était un petit peu bizarre avec genre l'effet où on met la caméra fixée qui filme le visage de la personne. Et puis la personne bouge, donc il y a son visage qui est fixe au milieu de l'image et puis tout qui bouge autour. Je crois que c'était plus intéressant en concept qu'en réalité. Mais en tout cas, le jeu pourrait être intéressant. Comme je le dis depuis un moment, moi, j'ai envie d'un jeu qui reproduise le Left 4 Dead-like, le jeu en coop à plusieurs, assez simple et satisfaisant. Ça pourrait être un petit peu ça. Ça me rappelle un petit peu Vermintide 2, qui a eu du succès. C'était cette année ou l'année dernière, je ne sais même plus, l'année dernière, je crois. Donc bref, c'est Dungeons & Dragons Dark Alliance. Il y avait quoi d'autre? Ah, il y avait plein de trucs, une petite promo Apex Legends, bien sûr, Ori and the Will of the Wisps. Ah oui, un jeu qui avait l'air vraiment intéressant, Naraka Blade Point. Naraka Blade Point, qui est un jeu développé en Chine, mais qui est donc dans cette ambiance très très chinoise, une direction artistique vraiment intéressante, et c'est un jeu de combat à l'épée qui fait un peu penser à Sekiro, mais qui avait l'air vraiment vraiment intriguant. C'est peut-être le jeu qui est le plus intéressant de tous ceux qu'on a vus dans cette présentation. Naraka Blade Point, Naraka Blade Point, si vous voulez y jeter un coup d'œil, je pense que vous pourriez être intéressé par ça. Ça sort en 2020. Il y a un nouveau mode pour contrôle, les Expeditions Mode, qui arrive. Et The Wolf Among Us 2 est en développement chez Telltale, enfin Telltale, qui a le nom de Telltale, mais c'était intéressant de voir que The Wolf Among Us 2 et Telltale renaissent en quelque sorte. C'est peut-être pas les mêmes développeurs, mais je pense que ça fera plaisir à certains de voir que c'est pas une licence qui est complètement abandonnée. Il y a Elder Scrolls Online Skyrim qui arrivera en 2020, c'est-à-dire une extension dans l'univers de Skyrim, dans l'île de Skyrim ou dans la zone géographique de Skyrim pour le jeu Elder Scrolls Online. C'est un gros morceau, bien sûr, pour Elder Scrolls Online parce que Skyrim est sans doute le jeu, très certainement le jeu Elder Scrolls le plus populaire de l'histoire. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont être curieux d'aller voir comment est représenté Skyrim dans le MMO. Et voilà pour les jeux. Il y en a quelques autres que je pourrais mentionner. Mais avant de conclure, je voudrais quand même parler de deux trucs qui étaient particulièrement malaisants. C'est d'une part les pubs pour Stadia, qui étaient... la réalisation pour moi était complètement, tellement over the top que ça devenait hyper malaisant parce que d'une part, on a l'impression d'être dans les années 90 et de parler à des super extreme gamers, yeah! Et que, enfin, on a largement dépassé ce stade, quoi. Et d'autre part, quand on connaît l'état de Stadia et à quel point l'état aujourd'hui est lamentable, même moi qui considérais toujours la chose comme une bêta avant le lancement public, le lancement où on n'a pas besoin du Founders Pack pour y accéder, bah même moi, je trouve que l'état se dégrade de plus en plus. Pas se dégrade, mais à chaque fois, il y a des choses qui se passent qui font que c'est un point en moins sur Stadia. Le dernier en date, c'était le fait que Darksiders Genesis, l'un des jeux qui est sorti que certains attendaient, notamment sur Stadia, et bah, il est plus cher de $10 sur Stadia ou de €10 que sur Steam, ce qui est incompréhensible. Moi, je ne comprends pas pourquoi Google n'a pas sorti le chéquier. Bon, enfin, si, je comprends, c'est qu'ils attendent le vrai lancement en 2020, quand ça sera disponible pour tout le monde d'un clic sur YouTube. Mais quoi qu'il en soit, les pubs pour Stadia, c'était... Parce qu'ils disaient, ouais, Stadia, c'est super, aucun besoin de machine, tu achètes juste tes jeux et tu peux jouer tout de suite, partout, machin. Et la réalité, oui, c'est ça en pratique, mais il y a tellement d'autres points négatifs. Enfin bref, bon, c'était vraiment cringe-worthy. L'autre truc cringe-worthy, c'était pour moi l'aspect Facebook Gaming, qui est Facebook qui essaye de s'associer au gaming avec des initiatives social responsible, responsables socialement, avec des trucs pour des efforts pour des jeux qui combattent la dépression, qui aident les vétérans, ce qui est évidemment très bien, mais Facebook n'ayant pas vraiment d'identité gaming du tout, pour moi, au-delà du fait qu'il n'y a plus vraiment de jeux qui sont joués sur Facebook, Daniel, dans l'épisode de Pixels, me faisait remarquer qu'ils veulent réunir la communauté des joueurs, parce que c'est une communauté qui est active et lucrative, bien sûr, mais il n'y a tellement pas de présence gaming pour moi du côté de Facebook que le fait qu'ils essayent de faire des efforts sociaux dans leur communication me paraissait bizarre, parce que les efforts sociaux, c'est un truc que tu fais quand t'as un truc sur lequel... Ça fait encore plus artificiel, en fait. Mais bon, enfin, c'est très bien qu'ils le fassent, mais étant donné qu'il n'y a pas de cœur de produit ou d'activité ou de présence dans le gaming à la base, le fait de faire des trucs super sociaux dans le gaming, ça me paraissait bizarre. C'est un petit peu... Ils essayent trop, mais... Enfin bon, comme je le disais, évidemment, c'est très bien qu'ils aident les vétérans et les gens qui... sont dépressifs, évidemment, mais c'est juste que ça faisait bizarre dans le contexte des Game Awards en particulier. Et puis à noter aussi que Amazon est toujours en train de développer son jeu New World, qui sortira en 2020. C'est l'un des jeux des studios Amazon. On sait que ces derniers temps, ça n'a pas été hyper... comment dire, ils n'ont pas eu énormément de succès à ce niveau-là. Ils ont un petit peu disparu, ils ont fermé des jeux. Donc, c'était intéressant de voir qu'il y en a au moins un qui continue à survivre. Donc, bon, il arrivera en 2020. Et dernier truc quand même cringe-worthy, je vous ai dit qu'il y avait du malaise. Le jeu Fast and Furious, présenté par Vin Diesel et Michel Rodriguez. D'une part, le jeu a l'air hyper moche. Mai 2020, c'est la date de sortie, et ils avaient des gros plans surtout, parce que le jeu a juste l'air d'être... bon, peut-être qu'il sera bien, hein. Un jeu n'a pas besoin d'être beau pour être bien, mais c'était quand même un petit peu... Et puis surtout, les petits... la petite présentation qu'ils ont fait, Vin Diesel et Michel Rodriguez ensuite, en disant « Ouais, ouais, on est des gamers depuis super longtemps. » Alors, on sait que Vin Diesel est un gamer depuis super longtemps, effectivement. J'imagine que c'est le cas pour Michel Rodriguez aussi, mais c'est juste que ça passait pas, quoi. C'était genre, oh, on restait toutes les nuits à jouer à Street Fighter et à Tekken. Je sais pas, la manière dont elle l'a dit, c'est genre, est-ce que... Enfin bref, mais c'est même Vin Diesel, ça faisait artificiel, quoi. Surtout avec le jeu qui était passé avant, ça faisait tellement promo que... Bref. Mais ils ont donc annoncé le GOTY qui, surprise, n'était pas Death Stranding, je plaisante, c'était Sekiro, ce qui fait quand même très plaisir à beaucoup de gens, je suis sûr. Et c'est une bonne répartition, je crois, dans l'ensemble des prix. Et Sekiro, évidemment, c'est largement mérité. Et je pense que tout le monde sera satisfait de du prix attribué à Sekiro. C'est leur jeu de l'année. On verra qui reçoit l'honneur dans les autres domaines, y compris dans le rendez-vous jeu, puisque je vous rappelle en conclusion que le vote pour le jeu de l'année du rendez-vous jeu est ouvert. Vous trouverez le lien dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à aller voter vous aussi, et on se retrouvera donc dans une petite semaine pour notre épisode spécial de nos jeux de l'année. Je suis très curieux de voir ce que vont dire chacun d'entre nous. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur Twitter, Facebook et Instagram sous le nom NotePatrick. Comme vous le savez, vous retrouvez cette émission sur frenchspin.fr et vous pouvez la soutenir sur patreon.com/rdvjeux. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis, ben, on se retrouve dans une semaine pour le prochain vrai épisode qui sera donc notre épisode des jeux de l'année. Je vous fais de grosses bises et à très très vite. Ciao.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.